Beurre FM, les mots piégés du débat républicain, Pierre-Henri.
Il y a parfois des mots qui fâchent, des mots du vocabulaire politique. Souvent, ils sont mal connus, employés de manière inappropriée, instrumentalisés. Ils se répètent et se buzzent en réseau, confortant posture et parti pris. Ils font débat et nous divisent. Ce sont les mots piégés du débat républicain. Eh bien, ces mots, nous allons les déminer, les expliquer, pour tout simplement vous permettre de mieux les comprendre. Les mots piégés du débat républicain, une émission qui débusque les faux-semblants. C'est sur Beurre FM, après être revenu sur l'origine du mot et sa balade dans l'actualité, je reçois un invité qui nous aide à y voir encore plus clair. Aujourd'hui, c'est le mot « woke » qui est sur la sellette. Si je vous demande, êtes-vous woke? Comme 86% des Français, il y a de fortes chances que vous ne compreniez pas ma question. Et pourtant, le débat fait rage dans le milieu politique. Le wokisme, pour beaucoup, est devenu une idéologie dangereuse qui menacerait la République. Mais c'est quoi le wokisme? Woke nous vient de awoken, qui est le participe passé de awake, en anglais, littéralement, se réveiller. À l'origine, l'injonction « rester éveillé » s'adressait aux Afro-Américains, les invitant à prendre conscience des nombreuses oppressions qu'ils subissaient et surtout à rester en alerte face aux dangers quotidiens qu'ils pouvaient rencontrer en tant que Noirs dans une Amérique ségrégationniste. Éveiller l'esprit de la nouvelle génération d'enfants noirs libres fut une préoccupation permanente de tous les intellectuels et artistes noirs engagés durant le XXe siècle. Le terme fut repris lors des mouvements pour les droits civiques des années 60, notamment par Martin Luther King, qui prononça un grand discours en 1965 intitulé « Rester éveillé dans une grande révolution ». C'est en 2014, à la faveur du mouvement Black Lives Matter, les vies noires comptent, que le terme ressurgit. L'assassinat à Ferguson par un policier d'un noir américain du nom de Michael Brown, alors qu'il ne présentait pas de menace directe, allait enflammer la planète. Le mouvement Black Lives Matter se diffusa à travers le monde et avec lui, le hashtag #StayWoke, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, être woke, c'est être conscient des inégalités qui existent en raison de la couleur de peau et des discriminations dont sont victimes d'autres minorités, les LGBT par exemple, ou encore en raison des violences que subissent les femmes. Bon, jusque-là, on a envie de dire « soyons éveillés ». Là où ça se corse, c'est quand des éléments radicaux s'emparent du sujet, veulent déboulonner les statuts et interdire le débat à l'université, assigner les gens à leur origine. Cela contribue à fracturer la société et à nier le principe d'égalité en opposant les universalistes aux identitaires et en hiérarchisant les individus entre dominants et dominés. Mais là encore, il faut faire la part des choses. Il existe des excès dans le mouvement woke, des mécanismes de sectarisme insupportables et dangereux, il faut les combattre, mais aussi ne pas en exagérer l'importance. Et donc, le wokisme, nous allons en discuter avec notre invité, M. Ruben Rabinovitch. M. Rabinovitch est psychanalyste et il a publié en collaboration avec Renaud Large une note pour la Fondation Jean Jaurès intitulée « Des hussards noirs de la République » à la chronique des Bridgerton qui s'intéresse à l'idéologie woke. Vous savez, les Bridgerton, c'est une série Netflix pour les adolescents, mais nous allons y revenir avec notre invité. Monsieur Rabinovitch, bonjour.
Bonjour à vous.
Merci de cet entretien autour du wokisme. Le wokisme est né aux États-Unis. Pensez-vous qu'en France, il puisse réellement passer des sphères politiques à la population tout entière dans sa forme la plus radicale? Et si c'était le cas, qu'est-ce que vous proposeriez pour le contrer ?
Oui, alors, pour le résumer d'un trait, le wokisme met en haut de l'affiche la logique de la domination, le statut de victime, l'essentialisme et les enjeux identitaires de race et de genre. S'il est resté un moment circonscrit au campus de la grande bourgeoisie américaine, depuis le wokisme a essaimé, il s'est aguerri, et il mène désormais une sorte de guérilla culturelle pour imposer ses thèmes dans la jeune génération, dans la création artistique, on le voit bien d'ailleurs si on a la chance de détenir un compte Netflix, dans le monde de la culture, comme on dit, et puis sur les réseaux sociaux et en politique. Alors, pour ce qu'il en est de l'avenir, je me garderais bien d'en être le prophète. Je ne saurais donc pas vous dire si cette idéologie mortifère finira par gangréner ou non tout l'édifice social, mais en tout cas, nous ne pouvons que constater que celle-ci gagne du terrain sur le vieux continent européen. Vous savez, l'Europe, depuis une bonne dizaine de décennies maintenant, ne se trouve jamais aussi originale que lorsqu'elle copie les États-Unis, donc il y a fort à parier que cette nébuleuse idéologique continuera à gagner les cœurs et à mordre sur les âmes des Européens.
Oui, j'entends, mais enfin, pour l'instant, quand on pose la question à la population française, 86% de nos compatriotes ignorent ce que c'est. Mais dans un récent article, vous notiez que ce phénomène encore relativement minoritaire en France, comme je viens de le souligner, n'en prenait pas moins une place de plus en plus prépondérante, pardon, dans le débat public. Mais d'une certaine manière, est-ce que ce ne sont pas les opposants au wokisme qui contribuent à diffuser ce phénomène auquel peu de Français s'intéressent ?
Alors, juste d'un petit mot, je ne suis pas je ne cite que rarement les sondages, mais puisqu'il faut vivre avec son temps, ouais. Faisons-le. Le wokisme est particulièrement présent dans la jeune génération qui sera demain, évidemment, aux commandes de la société. Ça, c'était pour en dire d'un petit mot.
Bien sûr.
Ensuite, les concepts de racisme systémique, de culture du viol, de privilège blanc, de transphobie, de masculinité toxique et j'en passe, qui infusent dans la presse et le débat public sont pourtant les leurs et non ceux de leurs détracteurs. L'érotisation de la culpabilité, la quête victimaire, l'idolâtrie de l'identité ou le déni du réel du corps ne me semblent pas être une invention des opposants au wokisme, mais on peut toujours se tromper.
Selon vous, est-ce que la pensée woke, littéralement être éveillé aux injustices, parce que à l'origine c'est de cela dont il s'agit, s'oppose-t-elle à l'universalisme républicain qui lui-même appelle à rester éveillé, à lutter pour l'égalité?
Alors, permettez-moi tout d'abord de dire que nous observons quand même depuis le tournant des années 80 l'abandon progressif par la gauche du combat pour l'émancipation collective et le délaissement des grands récits de transformation sociale au profit des combats sociétaux et de la défense des dites minorités. Un glissement s'est opéré depuis les revendications sociales collectives vers la satisfaction individualiste de toutes les jouissances. Le discours de l'émancipation sociétale tenu par les couches les plus aisées engendre l'aliénation sociale des gens ordinaires. Ensuite, je dirais que la fétichisation par les wokistes de ce qu'ils considèrent comme des injustices sociétales permet efficacement d'en faire taire d'autres, à savoir les sociales. Il ne devrait pas suffire d'agiter le hochet de l'injustice pour se prévaloir d'avoir un grand cœur et de se revendiquer de l'empire du beau, du bon et du bien. Quand, pour ce qu'il en est de la distinction entre le wokisme et l'idéal républicain, l'idéal républicain, lui, en faisant accepter à tous ses constituants d'être les dépositaires, les responsables et les porteurs d'une histoire plus vieille qu'eux, ambitionne précisément de permettre à des individus épars de constituer un même peuple, uni et solidaire d'un destin commun. Or, à l'inverse, l'idolâtrie identitaire prônée par le wokisme menace et fracture en tout état de cause le pacte social.
Parce que, en réalité, il fragmente le tissu social. C'est cela que vous nous dites en autant de minorités revendicatives et axées autour d'un défaitisme.
Je dirais en tout cas que le manichéisme wokiste, c'est le royaume du binaire et le donjon du deux, si vous voulez. C'est dominé ou dominant, antiraciste ou raciste, féministe ou machiste, victime ou bourreau. C'est une logique ami-ennemi, une logique du nous contre eux. et qu'on est là devant un univers mental sans contradiction interne où la nuance est considérée comme l'apanage des pisse froids. Or, quand un camp politique n'a plus d'adversaires mais seulement des ennemis, l'empathie pour ses opposants disparaît vite et tous les déchaînements barbares sont alors encouragés au nom de cette même vertu.
Vous vous dites contre le déboulonnage de statues comme celle de Colbert ou de Napoléon. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Alors, j'ai pas le souvenir de m'être exprimé précisément contre le déboulonnage des statues, n'étant pas personnellement un passionné de mobilier urbain, mais j'ai par contre considéré que les tenants de la cancel culture, lorsqu'ils cherchent effectivement à faire interdire des films comme Autant en emporte le vent, lorsqu'ils réalisent comme au Canada des autodafés de milliers d'ouvrages, ou lorsqu'ils déboulonnent les statues de Colbert, Napoléon, mais aussi Churchill, Lincoln ou Jefferson, rappellent une mécanique qui est proche de celle du parti dans 1984, le roman d'Orwell, ou pour choisir une référence moins fictionnelle, comme ce qui a pu se pratiquer sous la révolution culturelle maoïste. Dans le roman d'Orwell, le parti fait main basse sur les archives, fait disparaître certaines figures politiques comme certains événements, et réécrit l'histoire à l'aune de ce qui lui convient. Disons donc que ce qui me chiffonne dans la cancel culture et le déboulonnage des statues de ce point de vue-là n'est ici qu'un symptôme parmi d'autres de cette idéologie, c'est qu'il n'y ait plus temps d'enseigner l'histoire. Qu'il n'y ait plus temps de tirer les leçons du passé, mais de faire la leçon au passé. Et que c'est de ce point de vue-là que le déboulonnage des statues peut avoir quelque chose de symptomatiquement inquiétant.
D'accord, mais ça ne s'est pas passé en métropole, ce phénomène.
Écoutez, ça s'est passé... Alors effectivement, vous avez raison de préciser que ça s'est passé dans nos Outre-mer, ça s'est passé en Angleterre, ça s'est passé, et ça se passe encore, aux États-Unis, et je ne tiens pas, si vous voulez, un recensé exact du sort de toutes les statues métropolitaines, mais enfin, à mon avis, si ça n'a pas eu lieu, ça ne tardera peut-être pas à avoir lieu. En tout cas, c'est un mouvement, si vous voulez, un mouvement qui dépasse le seul cadre français et qui est un mouvement qui traverse les sociétés occidentales.
D'accord. Disons ensemble qu'il vaut mieux enseigner l'histoire, expliquer le contexte, plutôt que de déboulonner et effacer une partie de notre histoire. Monsieur Rabinovitch, je vous remercie de cet entretien et à bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.
C'était Les mots piégés du débat républicain en partenariat avec France Fraternité.